Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques.
Bonjour tout le monde, c'est Yann Agemeau sur le Francophone. Aujourd'hui, on a une émission spéciale sur le COVID. Je suis en compagnie d'Ariane Larreau. Salut Ariane.
Allô.
Puis on est avec deux de nos collègues des soins intensifs de l'hôpital Santa Cabrini, Dr Philippe Rolla. Bonjour.
Allô.
Philippe.
Salut.
Julie Morin, notre deuxième pharmacienne.
Salut!
Salut Julie, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, absolument. Alors, au fond, on rappelle que lorsqu'on fait un podcast sur le COVID, ben on est aujourd'hui le 22 mai 2020. Donc, naturellement, tout ce qu'on se dit aujourd'hui,
de l'expérience qu'on a eue
au CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal, dans notre installation, l'hôpital Santa Cabrini, on a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. La première vague de COVID nous a frappés de plein fouet. Puis, ce que je me suis dit avec Ariane, c'est que je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée de partager notre expérience pour aider ceux qui vont avoir à subir la deuxième vague et qui n'ont pas eu une première vague très forte. Donc, globalement, on a eu environ 65 cas de COVID. Là, naturellement, je vous parle des soins intensifs. Donc, on a eu environ 65 COVID. Plus de 80 % ont été intubés. On a eu une quinzaine de décès. Puis, au plus haut pic qu'on a eu, on a eu 19 patients intubés en même temps, parce qu'on a dû doubler notre capacité de soins intensifs là, dans les faits. Et notre DMS, notre durée moyenne de séjour pour nos patients intubés, se situe entre 11 et 12 jours. Donc, on est à peu près dans les statistiques québécoises, malgré une population extrêmement morbide et très malade. Donc, c'est pas mal ça pour nos statistiques. En fait, je vais commencer rapidement. On a plusieurs choses à discuter. Je veux qu'on parle un peu de ventilation ventrale, de trachéo. Une grosse portion sur les médicaments aussi, des complications qu'on a eues, puis quelques petits messages à la fin qui, je pense, vont être utiles pour tout le monde. Alors, commençons maintenant au niveau de la ventilation. Donc, dans les faits, très tôt au début de la pandémie, on a respecté les règles que tout le monde respectait d'intuber rapidement nos patients. Donc, lorsqu'on était rendu à plus de 5 litres par minute à la lunette nasale, je me souviens que le premier qu'on a intubé était déjà rendu à 100% quand on l'avait vu. Là, le patient était très hypoxique. Mais naturellement, on s'est rendu compte, après l'expérience qu'on a pu voir de certains collègues en Italie puis aux États-Unis, à New York, que si on était pour aller vers cette optique-là, ben rapidement, on aurait plus assez de ventilateurs. Donc, on a gardé des patients sous OptiFlo et sous BiPAP le plus longtemps possible, jusque tant que des vrais critères d'intubation ont lieu d'être. Et on a procédé à l'intubation assez standard pour le COVID. On a fait même un petit podcast là-dessus pour ceux qui sont intéressés d'aller voir. C'était dans les premiers podcasts de COVID, notre manière et notre expérience d'intubation. Alors, naturellement, on les a ventilés en acité contrôlée, en pression contrôlée, avec ou sans ratio inversé, mais le mode de ventilation qu'on utilise de plus en plus, c'est l'APRV, l'Airway Pressure Release Ventilation. Fait que je vais laisser Philippe nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, puis un petit peu la logique derrière ça, puis de quelle façon nous on l'a apporté ici.
Merci Yann. Alors, dans les dernières semaines, je me faisais poser la question assez souvent, là, surtout sur Twitter, là, comment manager les insuffisances respiratoires dans le COVID. Puis je pense que j'ai rendu ça de façon assez succincte. Là. Je pense que j'étais tombé sur le fer en 18 mots. C'était le plus que possible, essayons de ne pas les intuber. Puis quand on n'a pas le choix de les intuber, mettez-les sur APRV en TCAV. C'est pas mal ça en ce moment, mon approche. Et pourquoi? Alors, d'abord, comme Yann avait mentionné, au début d'avril, on avait fait un webinaire où on avait ramené justement de l'expérience italienne et américaine. Et il faisait juste commencer les débuts au Canada à ce moment-là. Et puis, l'expérience était justement ça, là, qu'une fois qu'il se retrouvait intubé, ça avait été remarqué là, par du monde un peu observateur aux États-Unis que la pente clinique raidissait et il y avait une détérioration sur multiples niveaux, multi-organiques, relativement rapide, qui était un peu hors de l'axe de la direction de la maladie pré-intubation. Et ça faisait penser à beaucoup de personnes si on faisait plus de tort qu'on pensait avec justement la ventilation ou bien la ventilation traditionnelle ou ordinette, etc. Et je pense qu'on a eu de la bonne expérience. Il y a quelques patients là, qu'on a pu éviter l'intubation complètement, qui, selon les critères du début de la pandémie, aurait, entre guillemets, dû être intubé. et ils n'ont pas été intubés du tout. On passait un bon bout de temps aux soins, sur de l'OptiFlow, sur du CPAP ou BiPAP, en se retournant à chaque quelques heures, avec des saturations qui étaient, disons, raisonnables. On tolérait peut-être 85, quelque chose comme ça, des fois plus, puis certainement des tachypnées importantes, mais qui ont bien évolué, qui n'ont jamais eu besoin d'être intubés. Un autre, je pense, qui a été intubé, mais de façon plutôt transitoire, c'est-à-dire seulement une semaine dans le contexte. C'est une petite intubation. Ça, c'est l'aspect d'essayer de ne pas intuber d'emblée. Deuxième chose, au niveau de la ventilation, je pense que le mode est important. L'APRV, et pour ça, je pense qu'il faut faire la distinction, c'est l'approche d'APRV avec le Time-Controlled Alveolar Ventilation, ou TCAV, qui, dans le fond, permet un recrutement, un Open Lung Strategy, à peu près sans dérecrutement. Alors, l'APRV peut être seté de plein de façons différentes, et le seté peut-être de façon presque commune, comme, parce que c'est pas un nouveau mode, l'APRV existe depuis les années 80, puis il y a plein de différentes façons de seter. Je pense qu'à un moment donné, on pourra peut-être enregistrer une discussion spécifiquement là-dessus, mais dans le contexte d'aujourd'hui, juste de dire que dans le fond, c'est vraiment comme un mode où on ne dérecrute jamais l'alvéole, et le concept en arrière de ça, c'est de stabiliser l'alvéole et d'éviter tout atélectroma autant que possible. Je pense que jusqu'ici, les quelques patients qu'on a pu mettre d'emblée là-dessus, ou même certains où on s'en est servi comme rescue, ont assez tous bien évolué. Du côté ventilatoire, il y a eu des problématiques chez certains de ces patients-là qui étaient, disons, extra-pulmonaires, mais du côté pulmonaire et même pour certains du côté multi-organes, là, ils ont plutôt bien évolué. C'est sûr qu'il va falloir une perspective un peu plus longue et vaste que les quelques-uns qu'on a jusqu'ici, mais ça, il y a de la corroboration aussi au niveau de quelques-uns de nos collègues au sud de la frontière qui ont l'opportunité de faire beaucoup d'APRV aussi dans certains centres, qui rapportent quelque chose de semblable de façon préliminaire jusqu'ici.
OK. Par rapport à l'APRV, il y a plusieurs choses, je pense, qui est important de comprendre. Naturellement, là, effectivement, on fera peut-être un petit talk là-dessus pour comment bien setter les paramètres. Effectivement, on l'a utilisé comme rescue au début, puis maintenant, on le fait de plus en plus dès l'intubation ou dès le premier 24 heures d'intubation. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que la plupart de nos patients avaient des compliances très élevées dès le début de l'intubation. Puis nos patients qui allaient vraiment le plus mal, après peut-être 10, 12, 14, 15 jours, eux devenaient comme un ARDS dans la plus pure tradition de l'aide, c'est qu'on avait des baisses de compliances. Une de nos hypothèses était peut-être que nos modes de ventilation standard étaient peut-être nuisibles. Alors peut-être, je dis bien peut-être, que l'APRV peut avoir quelque chose de bénéfique à ce niveau-là. Naturellement, il faut être capable de bien tolérer l'hypercapnie, parce que naturellement, ils deviennent tous un petit peu hypercapniques. C'est rare qu'ils ont des gaz parfaits. Et ça prend un certain temps aussi à régler l'hypoxie. Donc, il faut quand même être assez patient. Par rapport à la sédation, qu'est-ce que tu aurais à dire en APRV? Parce que, est-ce qu'il faut bien les sédationner? Est-ce qu'on les curarise? Il y a plusieurs idées, écoles de pensée là-dessus, puis on en a fait de toutes les sortes. On en a curarisé, puis d'autres pas curarisé. Alors, qu'est-ce que tu penses par rapport à la sédation et à la curarisation?
Je pense que dans un idéal, l'APRV a l'avantage de permettre la ventilation spontanée à travers tout le cycle APRV. Et donc, si on peut éviter la paralysie et les choses comme ça, on peut avoir... ça peut être plus facile, le mode APRV, mais ça n'empêche pas que quelqu'un de complètement curarisé peut être mis sur APRV sans problème. Mais je pense qu'une partie de la problématique de notre ventilation traditionnelle est peut-être justement reliée à une nécessité de sédation assez profonde due à la difficulté à être synchrone quand on a des pipes très élevées ou des rations inversées ou des choses comme ça. Je pense que nos pharmaciennes en discuteront peut-être un peu, mais l'idée de sédationner avec des molécules qui ne baissent pas trop la drive respiratoire dans ces cas-là peut être bénéfique.
Absolument. Puis, il faut aussi être capable de bien gérer toute la nouveauté au niveau nursing et inhalo, hein, de tout ça, même si les inhalos sont probablement plus familiers que les nurses par rapport au mode de ventilation. Ça reste quand même que ce n'est pas un mode de ventilation qu'on utilise à tous les jours. Alors, ça a pris une certaine période d'adaptation. Puis, même, je pense qu'on pourrait dire qu'on est encore en adaptation par rapport à ça. C'est assez difficile. Julie et Ariane, par rapport aux sédations, justement, je sais que je voulais qu'on en parle un peu plus tard, mais on devrait peut-être en jeter un petit coup d'œil là-dessus sur les molécules que vous nous suggérez ou vous pensez qui seraient les bonnes molécules, justement, pour garder une certaine drive respiratoire, mais garder le patient quand même assez calme, vu que c'est un mode de ventilation où les patients sont tellement malades, ils ont besoin d'un certain calme puis d'une certaine. Et dans un état paisible un petit peu, là.
Oui, bien effectivement, c'est sûr que ça a été un point majeur, là, les analgésies, les sédations dans le contexte de la COVID. Comme le Dr Roula parlait là, au niveau de la PRV, je pense qu'on a commencé à utiliser de plus en plus la kétamine aussi, qui est quand même un effet autant analgésique que sédatif, mais aussi un effet bronchodilatateur, ce qui peut aider aussi à la ventilation. Sinon, en tant que analgésie et sédation, on sait qu'avant, on était habitué d'utiliser le propofol, le fentanyl. Par contre, c'est des molécules qui, avec la COVID, sont devenues backorder, si on veut. On a de la difficulté à s'en procurer. Donc, ça a amené une pénurie de ces molécules-là. On est obligé d'ajouter d'autres molécules à notre arsenal thérapeutique. On était avec souvent le midazolam, le Versed, donc une vieille molécule qu'on n'utilisait plus depuis longtemps et qu'on a recommencé à utiliser maintenant. Sûr, c'est pas la molécule idéale, mais on est obligé de l'intégrer à nos molécules étant donné qu'on n'avait plus beaucoup de propofol comme sédation. On a aussi ajouté l'hydromorphone, donc le dilodide, en alternative au fentanyl qui était aussi en rupture de stock, qu'on a de la difficulté à se procurer pendant une période, et la kétamine, bien sûr. Donc, ce qu'on faisait d'abord, c'est qu'on alternait nos patients là, entre fentanyl et dilodide, donc un patient sur deux, on tentait de les alterner. Et on alternait aussi nos patients entre Versed et propofol. On a tenté de favoriser le Versed en début d'intubation parce qu'on se disait, bon, probablement que nos patients vont être intubés pour une plus longue période. On vérifiait d'ailleurs avec les médecins si c'était le cas. Donc, à ce moment-là, on peut commencer par le midazolam, puis par la suite, faire un switch progressif vers le propofol. C'est quelque chose qu'on a fait. Ou d'emblée, juste cesser le Versed lorsqu'on était pour extuber le patient. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait aussi. On a tenté plutôt de réserver le propofol chez nos patients qui étaient dialysés, nos patients qui étaient en IRA, le favoriser par rapport au Versed qui peut s'accumuler en insuffisance rénale. Donc ça a été quelques patients pour lesquels on gardait notre molécule traditionnelle de propofol. Sinon, on a aussi ajouté des patchs de fentanyl, on a ajouté du dilodide, l'hydromorph contint, qui était comme nos deux molécules pour tenter de venir réduire un petit peu les perfusions IV de fentanyl ou de dilodide. Donc on vient complémenter via le vin, complémenter via une patch. Ça nous a vraiment permis de réduire nos débits. Et d'ajouter aussi des benzos via le vin, bien sûr, de façon régulière. Donc permettre encore une fois de baisser aussi nos perfusions de Versed. Donc ça a été des alternatives qu'on a considérées beaucoup.
Ça a été une grosse adaptation hein, oui, de changer exactement. Ça, autant pour nous que pour les nurses aussi. Puis il y a quelque chose qui vient de me venir à l'esprit, je ne voulais pas trop en parler, mais nous on SLED ici, donc on fait des dialyses lentes, et on s'est rendu compte que le dilodide en SLED c'était difficile un petit peu. Hein?
C'est ça.
Il avait l'air dialysé pas mal, puis il fallait augmenter nos doses parce que nos patients devenaient agités aussi.
Exactement. Fait
que c'est juste un petit conseil comme ça qu'on donnerait pour le dilodide, de faire attention à ce niveau-là. Merci pour la sédation. On va revenir aux médicaments. Je voudrais juste poursuivre un peu avec la ventilation ventrale. Donc, je dirais qu'à peu près 80 de nos patients qui sont devenus très hypoxiques, on a dû les mettre sur le ventral. Donc, le prone ventilation, on faisait environ 12 à 16 heures par jour. En général, en tout cas, moi, je sais que personnellement, vers 16 heures le soir, quand je pouvais, sinon je le faisais plus tôt, mais je le faisais vers 16 heures jusqu'au lendemain matin. Ça me permettait de garder un 16 heures de prone jusqu'au lendemain matin. Mais ce qu'on s'est rendu compte au bout de la ligne, c'est qu'à la fin, à peu près 100% de nos patients ventilés ont été pronés parce que, justement, il y avait tellement de plaies de pression qui s'installaient malgré des excellents soins puis des matelas adéquats vu que les patients sont intubés pendant des jours et des jours et ils sont curarisés, ils ne bougent pas. Donc, au final, près de 100% de nos patients, on les a pronés, des fois juste pour un peu calmer le dos puis à la demande de nos plasticiens qui devaient faire certains débridements de certains patients. Donc, ça a été une expérience qui a été, somme toute, assez concluante, difficile un peu au début. Hein. On prônait peut-être un patient par mois, par deux mois. Là, on en prônait à tous les jours, des fois 4-5 par jour. Alors, ça a été assez difficile au début, mais je pense que pour vos propres unités, là, pour ceux qui n'ont pas encore beaucoup eu de cas de COVID, je pense que de faire un protocole, de faire quelques pratiques avec un de vos membres, une de vos nurses, un de vos médecins habitués à tourner le patient, bien protéger le tube endotrachéal, puis il y a beaucoup, beaucoup de tutoriels là, sur Internet à ce niveau-là. Je pense que Sacré-Cœur avait fait un vidéo là-dessus, là, si je me rappelle bien. Alors, je pense que la ventilation ventrale, ça a été quelque chose d'assez bénéfique. Et en fait, je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe, mais je pense que la réponse à l'hypoxie, à la ventilation ventrale était assez exceptionnelle. Puis pas tout le temps juste parce qu'on pense que c'est du recrutement des recrutements. Hein. C'était peut-être même un peu vasculaire là, ou sur le flow sanguin. Là. Fait, qu'est-ce que tu penses par rapport à l'expérience de ventilation ventrale qu'on a fait?
Oui, je pense qu'en effet, un peu comme ça avait été annoncé des autres endroits qui en avaient eu avant nous, les réponses étaient plus marquées que ce qu'on avait l'habitude de voir avec, disons, vraiment de la pathologie pulmonaire traditionnelle de la dernière décennie, là, si on veut.
Tout ça avec une compliance souvent bien normale ou presque normale. Lorsqu'on était hypoxique, mais avec des compliances normales, ça aidait quand même la ventilation ventrale. Alors, c'était ça. Puis, il y avait une grosse composante médicamenteuse aussi. En tout cas, je sais que moi, personnellement, les patients, je leur faisais un 24-48 heures de cureur au début, lorsque ça allait pas bien. Puis, c'était pour essayer d'être le plus court possible en termes de cureur, mais aussi par sécurité lors des premiers flips. Puis, on avait beaucoup de patients obèses, hein, faut le dire. Là, l'obésité touche beaucoup là, avec le COVID. Donc, flipper des patients obèses, c'est toujours un peu plus difficile. Ariane?
Oui, il y a quand même eu des questionnements dans les groupes de pharmaciens à savoir est-ce qu'on peut faire du proning sans curariser les patients. Je pense que vous l'avez fait. Ça pourrait être intéressant que vous discutiez un peu de l'expérience que vous avez eue des patients qui ont été pronés sans curare. Est-ce que ça a bien été ou...
Oui, je pense que oui. Certainement, je me souviens pas de la proportion, mais pour moi, ça avait pas été... Il fallait quelqu'un quand même qui est relatif, qui est pas agité, là, c'est sûr. Mm-hmm. Mais pour moi, c'était pas un facteur décisionnel là, s'il était sur curare ou non.
Non, c'est ça. Effectivement, je pense que si la sédation, elle était profonde et sécuritaire, puis que le patient n'était pas pour tousser ou bouger, parce que c'est le risque d'extubation hein, pendant la procédure. Alors, nous, on n'a eu aucune extubation pendant nos retournements. On a eu quelques déconnexions occasionnelles, où est-ce qu'on a réglé ça en faisant... finalement, en mettant du tape au niveau des jonctions entre le tube endotrachéal puis le tube corrugué puis le ventilateur, ça a un peu réduit ça. Mais si on pense qu'on était pour avoir une problématique, puis bien souvent aussi, le patient était déjà curarisé avant de le tourner parce qu'il était dur à ventiler. Donc, on le curarisait là et on le laissait là. Mais ça dépendait. Moi, je sais que j'y allais au feeling du patient en disant « Oh, ce patient-là est vraiment très obèse, très difficile, il m'inquiète beaucoup, on n'a pas beaucoup de jeu. » Donc, aussi bien qu'il soit curarisé puis qu'il n'y ait pas de réaction pendant le retour. Puis des fois aussi, ben, les sédations à haute dose, c'est pas bon pour les pressions, donc on n'était pas capable d'avoir une sédation parfaite. Fait que ça a été un petit peu ça à ce niveau-là. Finalement, pour finir au niveau de la ventilation, ça a été le questionnement qu'on a eu à se poser, pas au début, mais après 14, 15, 20 jours, on était dans le questionnement, qu'est-ce qu'on fait avec nos trachéos? Nous, à Santa Cabrini, on a la possibilité de faire nos propres trachéos nous-mêmes, là, par les médecins des soins intensifs. Et donc, ça nous donne une disponibilité puis une polyvalence à ce niveau-là. Alors, naturellement, après 14 jours, la plupart de nos patients n'étaient pas trachéotomisables, si c'est un verbe qui existe, là, parce que l'hypoxie était juste trop sévère. Donc, on s'est donné comme règle d'y aller après 21 jours. C'est pas idéal dans la littérature de faire ça, mais d'un autre côté, c'est pas mieux non plus si on fait une technique puis qu'on nuit aux patients. Donc, les trachéotomies, on les a fait au chevet, comme d'habitude, mais après 21 jours. Moi et Dr. Rolla, on a mis au point une technique rapide en apnée lors de la trachéo. On est en attente de publication là-dessus, fait que ça va être intéressant de voir si on va réussir à le faire. Mais j'aimerais ça, Philippe, un peu que tu me parles d'où est venue notre idée, puis comment on l'a mis sur pied, là, cette technique-là, puis pourquoi on l'a fait de cette façon-là en apnée. Là.
Mm-hmm. Bien, étant donné l'étendue de la pandémie respiratoire, il s'est sorti plusieurs documents, approches, je pense, à plein niveau, là, puis toujours avec l'idée de ne pas contaminer l'environnement. Mais dans le fond, ce qu'on a décidé de faire, étant donné notre assez vaste expérience de trachéo au chevet, on a décidé de faire tous les préparatifs. Et ensuite, du moment que le patient est déconnecté et que les choses sont ouvertes, par exemple le bronchoscope, la ventilation est arrêtée. La technique elle-même se fait de façon la plus rapide possible, en apnée. Et il faut ajouter qu'avant de faire ça, on a rajouté l'étape de faire un petit test d'apnée, c'est-à-dire de ne pas ventiler le patient une fois qu'il a été préoxygéné sur 100%, pour nous assurer qu'il n'allait pas désaturer pendant la procédure. On le fait pendant une minute. Et jusqu'ici, on a réussi à toutes les faire en dedans de 60 secondes, je pense, à peu près. Sauf peut-être une où il y avait eu un problème avec la trachéo, l'insertion de la trachéostomie même, une fois que c'était tout déjà dilaté. Et je pense que le patient qui a le plus désaturé a désaturé peut-être à 88 pour quelques secondes, là.
Je te reprends là-dessus, c'est 87. Mais je pense que ça va être correct. Mais c'est exactement ça, 87% la plus basse désaturation qu'on a eue.
Alors, juste pour prouver que ça se fait, ça peut se faire en apnée, Parce que je pense que plusieurs groupes avaient lâché des recommandations, des statements, etc. Surtout au début du fait de ne pas le faire, point, c'est tout, avant qu'il y ait plusieurs tests de COVID négatifs. De notre point de vue, c'était pas à l'avantage du patient qui pourrait parfois se retrouver intubé pendant très longtemps. Et même, on a vu dans le courant de ces techniques-là qui sont faites un peu plus tardivement que d'habitude, vraiment des larynx avec des cordes assez atrophiées et qui étaient quand même impressionnantes. Alors, c'est sûr que d'aller passer 4-5 semaines, là, ce serait probablement pas une bonne chose pour les patients. Là.
Non, absolument pas. Je pense que même 21 jours, c'est déjà trop long, mais on n'avait pas vraiment le choix. Donc, globalement, le but, c'était d'éviter l'aérosolisation durant la procédure en faisant une apnée. Puis, les fois que moi, j'étais au bronchoscope et tu faisais la trachéo, là, c'était à environ 45 secondes là, que tu étais in avec la trachéo puis on pouvait sortir le tube endotrachéal puis remettre la ventilation. Donc, effectivement, je pense que ça prend un peu d'expérience, que ce soit vous ou vos ORL qui allez faire vos trachéos, ça va être inévitable. On n'a pas le choix. Il faut en faire à un certain moment donné. Et ça va aider, comme tous les patients trachéotomisés, de baisser la sédation puis d'améliorer la physiothérapie du patient pour essayer de regagner tout ce qui peut être myopathie au niveau des extrémités ou même thoraco-respiratoire. Alors, ça fait un peu le tour au niveau de la ventilation ventrale puis des trachéos. On aurait des heures à discuter de toutes ces choses-là, de notre expérience. Fait que gênez-vous pas pour commenter tout ce qu'on a dit, poser vos questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, je voudrais qu'on passe maintenant un petit peu plus vers la médication. On a déjà un peu touché les sédations. Je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Alors, la fameuse hydroxychloroquine. Mes chers collègues pharmaciennes, alors j'aimerais savoir votre opinion là-dessus, puis je tiens juste à dire qu'on va faire un podcast un peu plus poussé, moi et Ariane, là-dessus. Alors là, je voudrais juste avoir un petit wrap-up. Qu'est-ce qu'on fait, puis est-ce qu'on écoute Trump? C'est ça la vraie question.
L'hydroxychloroquine, c'est tout qu'un dossier. On a eu beaucoup de promotion par les médias, par notre cher M. Trump. Mais grosso modo, d'où ça vient? Là? Initialement, ça vient d'études in vitro avec la chloroquine, qui a montré que ça pouvait diminuer l'entrée là, du virus dans les cellules. Donc, l'hydroxychloroquine, c'est sûr que c'est le même mécanisme d'action que la chloroquine. Donc, ça aurait un potentiel effet antiviral en alcalinisant le pH, ce qui fait en sorte qu'on a moins d'autophagosome. Donc, le virus rentre moins dans la cellule. Puis, en plus, l'hydroxychloroquine a un effet immunomodulateur, anti-inflammatoire. Donc, on le sait, le COVID, il y a une grosse phase inflammatoire qui pourrait être nocive pour nos patients. Donc, c'est de là que vient tout la réflexion, qui est quand même assez, qui fait tout à fait du sens. Ensuite, il y a eu beaucoup d'études, disons pas extraordinaires, là, avec beaucoup de biais, disons, qu'on va reparler un peu plus en détail là, dans le prochain balado. Mais grosso modo, on a de plus en plus de publications qui viennent appuyer que ben peut-être que c'est pas si sécuritaire que ça, que premièrement, on n'a peut-être pas tant de bénéfices à en donner, puis en plus, il y aurait peut-être des risques. Donc, je pense qu'initialement, vous en donniez quand même, avant que j'arrive, vous en donniez quand même plus souvent en COVID. Puis là, petit à petit, on a vu que les patients en recevaient de moins en moins. Puis même que dans les dernières semaines, je pense que quand il y a un patient qui est admis aux soins, on cesse complètement l'hydroxychloroquine. Et du moins, c'est sûr qu'on en débute plus maintenant à ce jour. Mais comme on disait, hein, c'est quelque chose qui est toujours en évolution. Donc, c'est un peu la pratique qui s'est faite ici. Donc ça fait un peu le tour là, au niveau de l'hydroxy. Là. C'est sûr que je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de complications cardiaques ou d'allongements du QT.
Oui, quelques allongements de QT, surtout lorsqu'on mettait de l'azithromycine avec ça. On le surveillait bien, on le faisait tous les jours. T'sais, c'est pas comme le patient à la maison qui n'a aucun contrôle. Là. Mm-hmm. On avait quand même une bonne structure. J'ai vu aucune torsade, aucun syndrome du QT long, rien de ça qui est arrivé. Mm-hmm. Puis avec Julie, à ce moment-là, c'est vrai que tu n'étais pas encore de retour avec nous. Avec Julie, on était très traitant. On vous donnait le traitement de 5 jours au début. Puis,
ou deux jours aussi, puis après ça, effectivement, c'était comme gênant avec les données qui sortaient de poursuivre le traitement.
Mais globalement, je pense que pour l'instant, comme le Lysol, faut arrêter d'en donner, ça c'est sûr, sûr, sûr. L'autre sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est l'anticoagulation. Ça a été assez spécial là, de la manière qu'on l'a utilisé, autant au niveau en thromboprophylaxie qu'en traitement thérapeutique. Donc, je voudrais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, donc ça, c'est un autre sujet. Donc, la COVID, on le sait, les patients sont hypercoagulables. On a vu beaucoup d'événements thromboemboliques. Là. On pourra en reparler aussi, les patients des embolies pulmonaires, des AVC, même des thromboses artérielles. Puis on a aussi les fameux D-dimères qu'on suit pas mal à tous les jours, qui sont tout le temps augmentés, qui varient beaucoup. Donc, initialement, je pense que c'est ça. Au début, on était très agressifs. On donnait des doses, des demi-doses d'anticoagulation, même parfois des deux tiers de doses. Surtout quand les D-dimères montaient plus que 6 fois la normale. Par contre, il y a eu quand même quelques événements de saignement. Certains patients ont saigné. Donc là, on se disait, est-ce qu'on est trop agressif? Donc, je dirais qu'à ce jour, la pratique qu'on fait plus, c'est de donner une bonne thromboprophylaxie. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça serait, par exemple, un Levonox selon l'IMC. Donc, un patient d'IMC à 30, un Levonox 30 mg BID, un IMC à 40, 40 mg BID, et ainsi de suite, parce qu'on en a vu des patients jusqu'à des IMC à 80.
Oui, effectivement.
Donc, c'est un peu plus l'approche. Sinon, des fois, on donne la tésaparine tout simplement pour donner une héparine de bas poids moléculaire qui se donne une fois par jour pour éviter les entrées dans les chambres. À ce moment-là, c'est variable. En juif, on fait quoi?
On a donné 75 unités par kilo, puis par la suite, on peut monter jusqu'à 125 unités kilo, qui étaient comme nos doses de thromboprophylaxie intermédiaires, puis par la suite, on y allait avec des doses de traitement de 175 unités par kilo parfois. Puis on suivait nos anti-10A si jamais on avait des patients en insuffisance rénale, on en a fait pour un ou deux patients ici. Là.
C'est ça. Donc, c'est sûr que grosso modo, ce qu'il faut retenir, on ne va pas nécessairement anticoaguler un patient qu'on n'a pas d'évidence franche d'événements thromboemboliques, mais on va être beaucoup plus agressif pour la thromboprophylaxie. Puis, on va aussi prendre en compte le tableau global du patient. Donc, si le patient a plein de risques de saignement, bien là, on va se dire, OK, on va peut-être y aller un petit peu moins intense. Donc, je pense que c'est vraiment de personnaliser votre approche. Mais au niveau de la littérature, on n'a vraiment rien pour appuyer quelconque pratique. Puis, aucune instance ou comité d'experts se sont positionnés jusqu'à maintenant, à part de dire qu'il faut absolument mettre une thromboprophylaxie, une pratique qui était déjà appliquée ici, là, au Québec. Mm-hmm. Donc,
Je pense qu'au niveau de la thromboprophylaxie, en tout cas, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est, premièrement, les D-dimères, j'en fais jamais aux soins intensifs. C'est extrêmement rare que je demande un D-dimère. En général, je suis pris avec un résultat de D-dimère fait à l'urgence, comme la plupart des médecins de soins intensifs. Alors, j'ai aucune idée si j'ai un patient en choc septique sur une hydronéphrose obstructive ou une pneumonie bien standard à streptocoque, ça serait quoi mes D-dimères dans la réalité? Je le sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que j'ai vu des niveaux astronomiques de D-dimères et surtout, j'ai vu des D-dimères augmenter en flèche au même moment que le patient devenait dans son cytokine storm, ce qui est logique un peu dans l'état inflammatoire. Mais surtout, lorsqu'on décidait qu'on pétait de l'héparine IV, par exemple, puis que là, c'était le temps de le baisser, bien, mes D-dimères se mettaient à remonter. Là. Puis on s'entend, là, c'est un produit de dégradation de la fibrine. Donc, c'est un reflet de quelque chose de coagulation ou de micro-coagulation. Une des théories dans le COVID, c'est qu'il y a de la micro-coagulation un peu partout. Donc, ça fait du sens d'en donner. Mais je me souviens d'un patient où est-ce qu'on a arrêté l'héparine IV, on est revenu à la prophylaxie, et les D-dimères sont passés de 3000 à 103 000 le lendemain matin. Je veux dire, j'étais pas capable de pas mettre d'héparine là-dessus. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'était un peu bizarre. Fait qu'il y a quelque chose là qu'il faut avoir à aller chercher. Mais je pense que globalement, Ariane t'a bien fait comprendre que de donner une très bonne thromboprophylaxie, ça aide. Puis si vous voulez donner 5000 TID, ben donner 7500 TID d'héparine sous-cutanée.
Oui, exact. Puis juste une petite mention là, pour l'héparine IV, il y a quelques papiers qui parlent que les patients COVID ont des APTT un peu plus élevés que la normale. Donc, pour l'ajustement de l'héparine, on ne sait même pas si, quand on ajuste selon nos APTT, si on est vraiment dans les cibles ou pas. Ouais. Donc, si jamais dans votre centre, vous avez un protocole d'ajustement selon les anti-10A, on vous recommande de l'utiliser. Mais ici, on ne l'a pas appliqué, mais ce serait intéressant de le faire. Mais ça, c'est vraiment par rapport à des rapports de cas là, qui sont passés.
Puis aussi, une autre chose, on a parlé beaucoup de saignement, fait que de ne pas oublier de mettre chez nos patients, nous, on avait tendance à mettre beaucoup de Zantac. Finalement, on a switché pour du Pantoloc IV-BID ou IV-DIA. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut penser Prévacide, exactement.
Des IPP, mais deux fois par jour.
Exactement.
Bon, maintenant, les corticos, chez Ariane, tu étais très, très, très enclin à nous en parler. Tu avais hâte de nous parler des corticos, fait que vas-y, on t'écoute.
Ben, ça aussi, c'est un autre sujet super controversé qui, je pense qu'il va toujours rester controversé aux soins intensifs, mais là, ça l'est encore plus dans le temps du COVID. Donc, il y a comme deux parties. Il y a des gens qui sont contre parce qu'ils disent que ça pourrait diminuer la clairance virale du COVID. Sinon, il y en a qui sont plus pour en donner pour l'effet anti-inflammatoire, l'effet anti-fibrotique. Que je pense qu'il pourrait être vraiment utile dans les cytokine storm. Fait que c'est sûr qu'ici, quand les patients sont rendus à être admis aux soins, souvent sont plus dans la phase quoi, tardive, cela, mais...
Non, c'est plutôt... c'est le début de l'hypoxie. Je pense pas qu'on les admet dans le cytokine storm. On les admet surtout lorsqu'ils sont surtout très hypoxiques. Puis souvent, les CRP sont pas si élevés que ça. Mais dans le 5 à 7 jours qui suit leur admission aux soins, là, on voit des CRP qui montent en haut de 200, puis 300, puis 380. Moi, en tout cas, personnellement, c'est là que j'avais tendance à partir de la cortisone. Pas en début de maladie. Je sais pas, toi, Philippe, qu'est-ce que tu faisais?
Ben, c'est ça. Surtout, nous, on les voyait pas toujours d'emblée. Des fois, oui, quand ils étaient assez malades pour venir directement au soin. Mais des fois, c'est les patients qui étaient aux étages pendant plusieurs jours c'est avant de venir.
Quand ils arrivaient, ils étaient en cytokine storm. Ça arrivait aussi.
Ça arrivait aussi. Alors, j'avais tendance à le partir parce que je pense que pour moi, les corticostéroïdes ont quand même une longue historique de safety aux soins intensifs de façon très générale et globale. Là. Alors, je pense que dans l'absence ou en attendant une évidence plus solide, je pense que c'était correct d'en donner.
Mm-hmm. En fait, ce que je vais dire là est très empirique, mais moi, c'était comme 200 mon cut-off, pas pour donner des stéroïdes, mais en bas de 200, quand mes patients tombaient en bas de 200, je voyais de l'amélioration. Quand ils étaient en haut de 200, ou bien ils étaient très malades, ou bien ils se détérioraient. Fait que je peux pas dire que quand j'avais 200, je donnais de la cortisone. J'y allais en fonction de l'état clinique. Mais dans les faits, ça ressemblait un petit peu à ça. Naturellement, on peut pas doser l'interleukin 6. Ça serait extrêmement génial de pouvoir le faire. Mais non, on peut pas. Donc, on est obligé de prendre des trucs qui vont être un petit peu... indirect, puis je pense que ça reste une réflexion personnelle, mais franchement, l'idée de dire que les corticostéroïdes vont empirer la réplication virale, je pense que la plupart du temps, c'est pas en début de maladie, puis je pense que les patients de COVID qui vont vraiment mal, c'est pas tellement le virus qui les tue, c'est surtout la tempête inflammatoire qui vient, puis qui là brise à peu près tout, avec les reins, avec le cerveau, avec tout ça. Donc je pense qu'à ce moment-là, la cortisone, ça a un certain lien.
Ouais, je pense qu'il y a une petite étude qui est sortie récemment, là, qui n'était pas, idéale peut-être, mais quand même, il y avait une association entre l'utilisation de stéroïdes puis une évolution. Certainement, pas une pire évolution au minimum, puis peut-être un petit avantage.
Oui, c'est une étude chinoise, effectivement. Il y avait une réduction de la mortalité avec... C'était rétrospectif, donc... Des billets, bien entendu, les patients plus malades avaient tendance à recevoir plus de cortico, mais quand même, effectivement, ça semble potentiellement intéressant. Mais du moins ici, la majorité des patients ont reçu des corticostéroïdes. Est-ce que c'est la bonne chose à faire ou pas? On ne le sait pas encore, bien entendu, mais je pense que c'est tout à fait raisonnable. Puis après, c'est juste de s'assurer de sevrer, de penser à les diminuer graduellement selon la réponse clinique, encore une fois, du patient. Il y a eu encore, c'est controversé à savoir est-ce qu'on devrait en donner juste aux patients intubés ou nos patients sur BiPAP. Qu'on essaye d'éviter à tout prix d'intuber, est-ce qu'on devrait leur en donner? Je pense que si notre objectif, c'est d'éviter des intubés avec toutes les complications puis les longues intubations que ces patients-là développent, je pense que c'est tout à fait justifié. Mais c'est sûr qu'il faut tenir en compte de tous les effets secondaires reliés aussi avec les hyperglycémies qui sont difficiles à contrôler chez nos patients COVID. Mm-hmm.
Complications infectieuses.
Oui, effectivement. Ouais. Donc, on n'a pas la bonne réponse mais l'expérience qu'on a ici, c'est qu'on en donne quand même assez souvent.
Ouais. Puis on essaie de les baisser assez vite. En tout cas, moi, je sais que je me faisais un devoir de tous les jours de réévaluer, surtout si c'est pas moi qui l'avais débuté. Je me disais, là, je pense que je peux baisser ma dose de moitié puis y aller assez rapidement. Tu faisais un lien entre les corticostéroïdes et la glycémie. Je pense que vous aviez un petit mot à dire sur comme dernier traitement là, sur les glycémies.
Oui, effectivement. On a eu beaucoup d'hyperglycémie chez nos patients. On avait beaucoup de patients obèses, beaucoup de patients diabétiques, beaucoup de patients qu'on a nouvellement diagnostiqués diabétiques, qui étaient connus pour aucun antécédent puis qui arrivaient avec une obésité qu'on diagnostiquait diabétique. Donc, des glycémies assez élevées, des patients qui étaient sous cortico, donc encore une fois, qui montaient leur glycémie. Donc nous, ce qu'on a fait d'emblée, c'est sûr qu'on aurait été tenté de mettre de l'insuline IV, c'est ce qu'on aurait voulu faire. Par contre, on s'entend que les infirmières ont besoin de rentrer dans les chambres souvent avec l'insuline IV, de suivre les glycémies, donc c'est peut-être pas le régime le plus optimal en situation de COVID. Donc à la place, on s'est plus penché vers des insulines longue action, comme la Lantus, la NPH. On a favorisé la Lantus parce que la Lantus se donne juste une fois par jour. Ça permet aussi d'éviter le risque d'hypoglycémie qui peut parfois être associé avec la NPH. Puis par par la suite, on rajoutait nos insulines sous-cutes 3 fois par jour, une insuline régulière en échelle d'insuline, 3 fois par jour au lieu de 4 fois par jour, encore une fois, dans le but de diminuer le plus possible les entrées par les infirmières dans les chambres. Puis une chose qu'on s'est rendu compte, quand les patients les prônaient, on se rendait compte qu'ils faisaient souvent des hypoglycémies. Puis c'est par la suite, en regardant, les gavages souvent étaient réduits ou même parfois suspendus dans les cas de proning. Donc, essayez de penser aussi qu'en position ventrale, de réduire vos doses d'insuline, de peut-être d'emblée prescrire lentus demi-dose, échelle d'insuline demi-dose lorsque le patient est en prone position. Comme ça, ça permet de s'assurer qu'on ne fasse pas trop d'hypoglycémie parce qu'on en a eu là, quand même quelques fois.
Parfait. Puis des fois, on se demandait s'il n'y avait pas une corrélation entre la régularisation de l'hyperglycémie puis l'évolution clinique qui s'améliorait. Des fois, on dirait qu'il y avait certains liens avec ça. Mm-hmm. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une piste de réflexion. Alors, avant de terminer, je voudrais juste qu'on parle un petit peu rapidement de certaines des complications qu'on a eues, parce qu'on en a eu des complications, et c'est surtout pour vous mettre à l'affût de ces choses-là qui peuvent arriver. Bon, naturellement, on a eu des arrêts cardio-respiratoires, puis comme on le sait tous, on a vu les chiffres lorsqu'on code des patients en COVID, juste le temps de rentrer dans la chambre, ben, il y a 3% de survie, puis 1% de survie neuro-intacte. C'est pas mal ça qu'on a eu, hein, je pense, dans les patients qu'on a codés. On n'en a pas eu des tonnes, là, mais ceux qu'on a codés, ça a été difficile. Alors, à ce niveau-là, je pense qu'il faut juste vous créer un protocole d'arrêt cardio-respiratoire. De mémoire, on a eu 2 pneumothorax, tu as de la ventilation un peu difficile. L'échographie, je pense que c'est quelque chose de faire à tous les jours, à tous les patients lors de votre tournée. Ça peut vous aider à avoir vos glissements pleuraux. Donc, ça peut aider à éliminer certains pneumothorax. On a vu des long points hein, qu'on ne voit pas toujours, hein, Philippe. Je pense que ça a été assez significatif là, à ce niveau-là.
Oui, un de ces pneumothorax-là, justement, il était en partie de l'évaluation hémodynamique que je faisais sur ce patient-là un soir. Là, un côté, ça glissait, l'autre côté, ça glissait pas. Puis c'était pas d'emblée, je m'attendais pas nécessairement côté ventilatoire à en voir un. Là, il n'y avait pas quelque chose qui avait fait un trigger. Alors, je pense que la petite routine que je fais faire, par exemple, aux résidents ici, c'est de s'assurer de regarder le sliding des deux côtés, de regarder la vessie pour des fois des dysfonctions de sonde, et puis de faire un petit look rapide aux veines fémorales et axillaires, s'assurer qu'il n'y a pas de thrombose, comme il y a une incidence de thrombose un peu plus élevée. Là,
Absolument. Parlant de thrombose, on a eu un cas assez spectaculaire de thrombose mésentérique qui n'avait rien à voir avec un territoire vasculaire standard. Et c'est en examinant bien le patient, un de nos collègues a vu que le ventre avait quelque chose de différent parce que le patient était obèse, donc c'est difficile de voir et ça finit en résection. On parlait tout à l'heure des thromboprophylaxies. Je pense que c'est nécessaire parce que justement, il semble avoir des microthrombies qui vont un peu partout. Si je me rappelle bien, c'était l'activation du PAI1 qui a l'air à faire ça, là, mais bon. Ça me donne l'air intelligent, mais je ne suis pas tout à fait sûr que c'est ça. Deux cas de méningite virale qu'on a confirmé à la résonance magnétique. Donc, on sait que lorsqu'ils deviennent hypoxiques, les patients deviennent confus. Puis, on pense que le COVID fait faire des déliriums standards aussi, comme n'importe quelle infection, ou avec les températures à 40-41 degrés. Facile de tomber en délirium. Alors, on a trouvé 2 méningites virales à la résonance et malheureusement, on a eu un patient, en plus d'avoir de l'encéphalopathie anoxique, d'avoir des infarctus cérébraux dans la microvascularisation aussi. Donc, ça ressemble à ça un petit peu, les complications. Pour le reste, la plupart de nos patients, c'était standard, hypoxie, insuffisance rénale. C'était pas mal ça, le gros pattern de nos patients. Je dirais qu'on a à peu près fait de dialyse, de SLED sur à peu près 20% de nos patients en insuffisance rénale. Ça a été globalement bien toléré, un peu difficile, surtout de proner des patients en dialyse. Ça se fait, on le fait, et c'est pas une contre-indication. Donc, c'est toutes des choses qui sont à garder en tête. Alors, pour terminer, j'espère que vous avez apprécié ce podcast-là. C'est notre expérience. J'aurais quelques petits trucs à vous donner comme message à ramener à la maison, là, les take-home messages, comme on dit. Première, une des choses qui a changé notre vie au début de la pandémie, c'est d'avoir des masques P100. Donc, avec des filtres P100. On sait que les N95, c'est amplement suffisant. Les masques P100, c'est les masques qui sont demi-face ou full face avec les cartouches, ce qui fait que c'est beaucoup plus confortable. Puis quand nos infirmières ont commencé à voir ça et que nous, on a commencé à voir ça, premièrement, on se sentait beaucoup plus en sécurité de rentrer dans les chambres. C'était beaucoup moins douloureux. Puis pour les patients qu'on a codés, lorsqu'on code 1 heure, 1 heure et demie de temps à un patient, avoir ça dans le visage, ça rend les choses beaucoup plus confortables. Alors ça, je pense que c'est un investissement qui doit être pensé et réfléchi pour vos équipes. Deuxième chose, j'en parlais avec Dr. Rolla tout à l'heure, c'est un peu drôle de dire ça, mais examinez vos patients. Parce que le COVID fait qu'on rentre moins dans les chambres, on voit moins les patients. Les nurses aussi rentrent moins dans les chambres. Mais lorsque vous rentrez puis vous faites votre tournée du matin, examinez, palpez, regardez vos yeux, les pupilles, regardez tout. Faites votre écho. Donc, je pense qu'examiner le patient, vous allez trouver des complications qu'on n'aurait peut-être pas vues à la base. Je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'être prêt à vous adapter, d'être prêt à changer tout au tout les traitements du jour au lendemain. Parce que tout d'un coup, on ne donne plus d'hydroxychloroquine. Tout d'un coup, on donne du Lovenox BID à tout le monde. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On le sait pas. On le verra dans un an et demi avec les études. Mais je pense que si vous gardez en tête et si vous vendez bien ça à vos équipes nursing inhalo, que l'adaptabilité, c'est la clé du succès en COVID, je pense que vraiment, vous allez avoir fait un bon point avec ça. Vous savez, on est dans une période assez charnière de notre vie à toutes nous autres, nos générations. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles maladies qui émergent dans l'histoire de la médecine. Une pandémie comme ça, c'est nouveau. Donc, il y a quelque chose d'absolument fascinant, mais tragique en même temps, au nombre de morts qu'on a vues là. Mais je pense que si on reste l'esprit ouvert puis qu'on est prêt à avancer là-dedans puis à essayer des choses tout en respectant les règles, bien, vous allez apprendre, vous allez faire avancer les choses puis vous allez vous adapter. Puis le dernier point que j'aimerais donner, c'est j'ai jamais été aussi tolérant envers les tachypnées et les désaturations. Je veux dire, de ne pas intuber des patients sous BIPAP qui respirent à 35-40, je ne connais pas ça, là. Mais en COVID, ce qu'on appelle des happy hypoxic, les hypoxiques heureux, je ne sais pas trop comment dire en français, il y en a beaucoup. Et il faut se retenir parce que le plus longtemps que vous attendez sans mettre la vie du patient en danger, le plus court est l'intubation et même vous évitez l'intubation et le mieux que le patient va s'en sortir. Fait que ça, c'est à peu près les messages que je pense que je voulais vous donner et de garder en tête pour affronter la deuxième vague qui s'en vient. Philippe, y a-t-il des choses que tu penses que nos éditeurs devraient bien connaître ou essayer de comprendre et de favoriser dans leur unité?
Oui, je pense que la petite parenthèse que j'ajouterais juste que justement sur le sujet que tu viens d'ouvrir, la décision de l'intubation n'est pas facile. Mais je pense que plutôt que de regarder, disons, les réflexes monosynaptiques qu'on avait avant, qui étaient probablement les bons pour toutes les maladies qu'on croisait, là, en général en tout cas, mais maintenant c'est de se demander si... La façon que le patient respire qui est devant nous est une façon qui va être injurieuse à ses poumons. Si vous regardez le concept de self-inflicted lung injury ou SILI, SILI, self-inflicted lung injury, si les pressions intrapleurales se trouvent à être très négatives pendant une longue période de temps, ça va empirer l'édème pulmonaire. Alors si le patient est tachypnéique, hypoxique, mais ne respire sans trop de difficultés, on peut penser que le patient va peut-être être capable de tolérer ça et que les dommages seront peut-être moins pires de continuer dans cette direction-là plutôt que d'intuber. Alors, je pense que la question physiologique, quand on regarde le patient, est-ce qu'on pense qu'il génère des pressions négatives pour inspirer qui sont si élevées? Et peut-être que la petite différence entre le COVID et les autres choses, c'est que justement, au début, ou pour certains patients, les compliances étant élevées, il n'y a pas tant de travail respiratoire. C'est des tachypnées, des hypoxies, mais avec une haute compliance, le travail respiratoire n'est pas si pire. C'est un peu, l'hypoxie est un peu uncoupled du travail de respiratoire. Franchement, ce serait ça de commencer à regarder ça à chaque fois qu'on a un patient là, qui est tachypnéique, qui est hypoxique. Est-ce que je pense que sa respiration va blesser les poumons plus?
Oui. Excellent point. Merci beaucoup. Je voudrais vous dire merci. C'était vraiment super intéressant. J'espère que pour vous qui nous écoutez, ça va être utile pour vous. On va espérer que la deuxième vague soit pas aussi inquiétante qu'on a peur, qu'elle le soit avec le déconfinement qu'on va subir au Québec dans les prochains jours et les prochaines semaines. En attendant, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à partager cette balado-là à tout le monde. On est sur toutes les plateformes habituelles, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, sur notre site internet, lefrancophone.com. N'hésitez pas, vous allez tous retrouver nos balados. Alors, je vous dis merci. Ariane, Julie, Philippe, merci beaucoup d'avoir participé. On va peut-être se faire un wrap-up après la deuxième vague. On verra qu'est-ce qui va arriver. Ciao.
Bye. Salut, merci. Merci.
L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.